France Inter. Hélène Roussel. Le 5-7.
Il est 6h22. Bonjour Gérald Andrieux.
Bonjour Hélène.
Vous publiez Peuple de la frontière, 2000 km de marche à la rencontre des Français qui n'attendaient pas Macron aux éditions du Cerf qui est sorti ce mois-ci. Vous êtes journaliste, ancien rédacteur en chef à l'hebdomadaire Marianne. Vous aviez couvert la présidentielle de 2012. Cette fois, au lieu de suivre les candidats, vous avez préféré, donc d'octobre 2016 à mars 2017, quitter Paris et marcher de Dunkerque à Menton. Quelle mouche vous a piqué, Gérald Andrieux ?
La mouche, je sais pas. La colère, je la connais. La colère, c'est d'avoir donc suivi cette campagne présidentielle 2012 sans jamais rencontrer un Français. C'est quand même ahurissant d'être journaliste politique et d'être totalement hémiplégique au point de discuter seulement avec les candidats mais jamais avec les électeurs. Donc pour la campagne de 2017, il s'agissait de retrouver un petit peu raison et d'aller discuter plutôt avec les électeurs que les candidats.
Pourquoi la marche et pourquoi le long des frontières ?
Alors la marche d'abord pour ralentir, parce que notre métier devient complètement idiot, aberrant, abrutissant, et pour les lecteurs, les auditeurs, les téléspectateurs, et aussi pour nous qui le pratiquons. Puisque désormais, il faut vivre au rythme du flux continu de l'information. Donc marcher pour ralentir, et la frontière parce qu'en tant que telle, c'est un objet politique. La frontière, c'est un lieu de friction entre les populations, c'est un lieu de passage pour les marchandises, et c'est aussi le lieu qui, selon moi, devait concentrer tous les sujets de la présidentielle. Les questions de désindustrialisation, les questions européennes, de libre-échange, d'immigration, évidemment, avec la crise des migrants. Donc c'était pour moi un personnage politique en tant que tel, c'était le candidat supplémentaire de cette élection présidentielle.
Les frontières physiques ont disparu, est-ce que pour autant les frontières existent toujours ? Est-ce que certaines frontières existent toujours, des frontières sociales ?
Alors c'est le paradoxe, on nous vend un monde sans frontières, alors qu'en fait il n'y a jamais eu autant de frontières qu'aujourd'hui. Puisque quand les frontières de l'État-nation disparaissent, d'autres frontières apparaissent à l'intérieur même du pays. Et les gens qui vivent près de la frontière aussi vous disent « mais non, elle n'existe pas cette frontière ». Mais quand on leur explique que par exemple l'usine qui était présente en France a fermé ses portes et a réouvert ses portes côté luxembourgeois ou côté suisse, ils se disent « ah évidemment, finalement la frontière existe, d'autant qu'ils la franchissent pour aller s'acheter des produits de consommation, ça peut être des cigarettes, de l'alcool, du pétrole, ou que sais-je encore, ou même de simples produits ménagers. Donc en un sens, elle existe, la frontière existe, puisqu'il y a des différences économiques, sociales et fiscales, notamment avec le Luxembourg et la Suisse.
Page 44, là on est dans le Nord, à Fourmies, avec deux jeunes qui sont devant Pôle emploi. Ici, on en est parfois à la troisième génération de chômeurs. Il faut bien saisir ce que ça veut dire, des gamins qui n'ont pas vu leurs parents se lever le matin pour aller au travail, des grands-parents qui déjà à leur époque n'avaient pas de boulot. Dans ces familles, il y a des repères qui n'existent pas. Gérald Andrieux, c'est quoi là ? C'est le libre-échange, la chute des barrières économiques qui apporte la pauvreté ?
C'est les effets conjugués de tout ça, quand même. Là, on est dans une région, Fourmies, qui est une ville en plus emblématique pour la gauche, puisque c'est la ville des fusillés du 1er mai de Fourmies. C'est des effets conjugués de la mondialisation, du libre-échange, etc. Puisque, on le voit, les frontières précédemment nous protégeaient en quelque sorte un petit peu de ces mouvements économiques. Et là, Fourmies, c'est une ville qui est débarrassée de tout emploi. Et ce qui est le plus triste pour ses habitants, c'est qu'ici, ils n'imaginent pas pouvoir quitter cette ville, parce qu'ils la trouvent agréable, ils y sont très attachés. Et même sur place, ils me disent « mais dites pas que c'est la misère ici, nous on l'aime cette ville ». Et effectivement, les habitants de Fourmies adorent leur commune, mais il n'y a plus de travail. Il n'y a tout simplement plus de travail.
Ce qui est édifiant quand même, c'est que pendant tous ces mois où Paris ne parle plus que de Macron, vous n'en entendez pas parler du tout, je crois, sauf en Suisse.
À l'approche de la Suisse, c'est ça qui est assez marrant pour quelqu'un qui était banquier et qui se présente à l'élection présidentielle. Les Français n'en parlent pas, sauf ceux qui franchissent la frontière pour aller travailler en Suisse.
Ça veut dire qu'il n'existe pas ailleurs ?
Ça veut dire qu'il n'existe pas dans leur univers mental. C'est-à-dire que c'est un candidat qui n'a rien en commun avec eux. Si j'osais, je dirais qu'il est même étranger à cette France-là. C'est un candidat hors sol. Il a des problématiques, il développe un discours qui n'est pas ancré dans leur réel. C'est-à-dire c'est un candidat que le sociologue Bauman aurait appelé le candidat de la liquidité, du monde liquide qui flotte au-dessus de la Terre. Eux, comme je le disais pour les habitants de Fourmies, ils sont ancrés dans cette Terre, ils n'imaginent pas pouvoir la quitter. C'est un petit peu quand on imagine les salariés de GM et S qu'ils leur proposent de faire 180 km pour aller travailler dans une autre usine. Mais qu'est-ce que c'est 180 km pour lui, c'est un voyage en un claquement de doigts. Mais pour ces gens-là, ça veut dire quitter une maison qu'ils ont mis parfois des années à payer et parfois ils n'ont même pas fini de la rembourser. Donc pour eux, ce sont des gens ancrés dans la terre, des gens de la solidité et lui est un candidat de la liquidité.
Vous notez scrupuleusement les derniers résultats électoraux des communes que vous traversez et où vous vous êtes arrêté. Résultat, beaucoup de Marine Le Pen, beaucoup d'abstention. Les 4 millions de votes blancs et nuls du second tour, un record, on peut le rappeler, ils sont là, dans vos pages.
C'est ça qui est le plus inquiétant. Là, on se rend pas compte parce que le FN est en voie de décomposition, mais c'est quand même le score le plus élevé qu'il ait fait de sa courte histoire. Et par ailleurs, oui, la sécession civique, puisque c'est ça qu'on a vécu, c'est une partition civique, a été extraordinairement importante. Il y a quand même 13 millions de personnes qui, au second tour, ne sont pas allées voter. Se sont abstenus, auxquels il faut ajouter 3 millions de votes blancs, 1 million de votes nuls. Mais ça ne s'est pas arrêté là. C'est que aux législatives, il y a eu 51 puis 57% d'abstention. Et le vrai problème, c'est qu'Emmanuel Macron se comporte comme si toutes les orientations qu'il avait présentées pendant cette campagne avaient été validées par le vote. Alors que pas du tout,
il dit souvent,
en fait.
J'ai été élu par les Français, je vais au bout de mes réformes pour les Français.
En quelque sorte, il est élu par les Français, il est légitime. Mon propos n'est pas là, il a été élu selon les règles. Mais néanmoins, toutes les propositions qu'il formulait pendant sa campagne ne pouvaient pas être validées par cette élection auquel une bonne partie du pays n'a pas pris part.
On termine sur une citation, si vous le voulez bien. Vous écrivez, quand vous présentez votre projet, allez voir ces déjà déclassés, ces oubliés, ces broyés de la croissance, ces gueules cassées d'une guerre qui n'a pas encore été nommée par les historiens, mais dont les obus s'appellent, la liste est longue, délocalisation, précarité, chômage de masse. Donnez la parole à ces gens à qui les politiques reprochent d'avoir peur, alors que dans le même temps, ils font si peu pour les protéger et les rassurer. C'est un cri, votre livre. Est-ce que derrière, vous avez voulu prouver quelque chose ou provoquer quelque chose?
Alors, c'est les gens qui s'empareront du livre ou ne s'en empareront pas. Moi, en tout cas, je ne pouvais plus continuer à faire ce métier sans regarder ces personnes-là. Ça m'était insupportable.
Le fossé s'est encore plus creusé.
J'espère que quelqu'un arrivera à résoudre ça, oui.
On va s'arrêter là, Gérald Andrieux, auteur du Peuple de la frontière aux éditions du CERF, publié ce mois-ci. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Bonne journée à vous. On peut réécouter votre interview toujours sur franceinter.fr après le journal de 6h30, la grande table ronde du petit déjeuner, comme d'habitude à la sauce 5-7.